Face à l'épidémie de Covid-19, un reconfinement est-il possible ? Ce matin, un membre du gouvernement laisse entendre que l'hypothèse est à l'étude. Vous l'entendrez, le secrétaire d'État Cédric O ne ferme pas la porte à des mesures plus strictes, alors que la prolongation de l'état d'urgence sanitaire vient d'être votée à l'Assemblée nationale. La stratégie de lutte contre le coronavirus continue en tout cas d'agiter la communauté scientifique. Nous ferons le point dans un instant avec Adrien Palluet. Paris rappelle son ambassadeur en Turquie et hausse le ton face à Ankara, une tension de plus en plus palpable entre les deux pays liée en partie à l'ambition turque de se bâtir un leadership dans le monde musulman. Enfin, la mobilisation à Santiago pour tirer un trait sur une constitution héritée de la dictature. 14 millions de Chiliens sont appelés aux urnes pour un référendum historique. Hier encore, un record est tombé. Plus de 45 000 nouveaux cas positifs au coronavirus en France. Une progression des admissions en réanimation. Hier, l'Assemblée nationale a voté par 71 voix contre 35 la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au moins jusqu'au 16 février. Une prorogation de ce régime d'exception qui permet au gouvernement de prendre des mesures sans passer par le Parlement. Un projet de loi qui peut permettre à l'État un éventuel reconfinement. C'est une hypothèse que n'exclut pas Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, avec Matteo Maestrachi.
Je pense qu'il ne faut absolument rien écarter et voir en fonction de l'évolution de l'épidémie ce qu'il faut faire, puisque la première priorité, ça reste de préserver la vie des Françaises et des Français. Et donc ce projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire, il permet au gouvernement de se préparer à prendre des décisions le moment venu, s'il en était besoin, sans le faire dans l'urgence. Mais en tout cas, on est prêt.
Je pense que tout est possible. C'est la semaine prochaine qu'on aura l'évaluation en termes statistiques de l'efficacité du couvre-feu qui a été décidé il y a quelques semaines. Exactement. Donc soit les courbes commencent à s'infléchir et on laisse le couvre-feu tel quel, on n'a pas besoin de durcir les mesures, soit on voit que ça ne suffit pas. Et dans ce cas-là, oui, il faudra probablement prendre des mesures plus dures.
En attendant d'éventuelles mesures plus restrictives, quel avenir pour l'application Tous Anti-Covid qui permet de tracer les cas contacts? Selon Cédric O, elle doit être téléchargée par au moins 20% de la population pour être efficace. À ce jour, 4 millions de personnes l'ont installée. Et alors que depuis hier, près de 46 millions de Français doivent rester chez eux entre 21h et 6h du matin, les propos de Cédric O font émerger le spectre d'un reconfinement. Bonjour Adrien Palluet.
Bonjour.
Cette mesure fait encore débat au sein de la communauté scientifique.
Oui, en effet, tout doucement, le mot confinement revient sur le devant de la scène. Et même si, à ce stade, le gouvernement annonce ne pas l'envisager, pour Jean-Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses au CHU de Grenoble, couvre-feu et confinement sont les seuls moyens de lutter efficacement contre le virus.
La technique pour contenir une épidémie, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire la distance entre les personnes et des barrières, c'est-à-dire des masques. Donc la mesure, elle est pleinement justifiée. La stratégie, elle est simple. Elle est d'éviter que des gens porteurs du virus contaminent des gens qui ne sont pas encore porteurs. Mais si, dans la population générale, on avait porté comme il fallait le masque et si on avait évité de faire des fêtes diverses et variées, on n'en serait pas là.
Un appel à la responsabilité donc, mais force est de constater que les mesures provoquent des oppositions. Bar, théâtre ou encore cinéma par exemple, déjà éprouvés par le couvre-feu et les mois de confinement du printemps, se passerait bien d'une nouvelle mise à l'arrêt de l'économie. D'autant que pour d'autres scientifiques, comme l'épidémiologiste Catherine Hill, couvre-feu ou confinement, cela est peu efficace.
Ça a un petit impact, mais pas suffisant du tout pour enrayer la catastrophe qui va nous tomber sur la tête dans pas longtemps. Par ailleurs, confiner, c'est juste comme mettre la viande avariée dans son congélateur et la ressortir après. L'épidémie repart ensuite, si on n'en profite pas pour tester massivement.
Les éventuels effets du couvre-feu devraient apparaître dans une dizaine de jours, et c'est à ce moment-là que le gouvernement doit décider ou non d'un reconfinement.
Merci Adrien Palluet. Jean-Michel Blanquer promet un recadrage clair aux enseignants à la rentrée des vacances de la Toussaint. Après l'assassinat de leur collègue Samuel Paty, qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet en classe pendant un cours sur la liberté d'expression, le ministre de l'Éducation promet de répondre aux inquiétudes des enseignants. Il y aura un temps le 2 novembre prochain pour leur permettre de se préparer à la rentrée, mais aussi un temps d'échange pédagogique avec les élèves pour réaffirmer les principes de l'école de la République, explique-t-il dans un entretien au Journal du Dimanche. La tension est encore montée d'un cran. Hier soir, entre Paris et Ankara, l'Élysée juge inacceptables les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'en est une nouvelle fois pris nommément à Emmanuel Macron en mettant en question sa santé mentale après les propos du président français sur les séparatismes et plus largement son attitude envers les musulmans. Attitude jugée inacceptable par Recep Tayyip Erdogan. La France a rappelé son ambassadeur en Turquie, un acte diplomatique rare. C'est un incident sérieux, juge Jean Marcoux, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Incident lié à la volonté de leadership de la Turquie dans le monde musulman.
Ça tient au positionnement que veut adopter la Turquie dans le monde musulman, où actuellement elle s'oppose à l'Arabie Saoudite, aux Émirats. Je crois qu'il y a à la fois la défense des Turcs de l'étranger, et là il se trouve qu'en même temps d'ailleurs, il y a cet accrochage avec la France, mais la Turquie a également eu des mots avec l'Allemagne suite aux perquisitions qui ont été lancées dans une mosquée à Berlin. C'est un sujet qui a toujours été très très sensible pour la Turquie, dans la mesure où la loi sur le séparatisme pourrait avoir des conséquences pour la communauté turque, voire pour les musulmans turcs. Effectivement, Recep Tayyip Erdogan intervient. On a quand même un conflit qui dure, des accrochages qui se produisent, qui concernent d'ailleurs pas seulement la France, mais plus généralement l'Europe. Je pense que la Turquie actuellement est un peu fébrile parce qu'il y a également l'élection américaine et que Recep Tayyip Erdogan pourrait perdre son ami Trump, en quelque sorte. Donc, je crois que c'est quand même un incident qui est sérieux. C'est significatif aussi d'une relation entre les deux pays qui s'est détériorée ces derniers mois et qui, effectivement, doit se mettre au travail pour retrouver le chemin du dialogue.
Jean Marcoux, professeur à Sciences Po Grenoble, au micro d'Olivier Delagarde. Et sur les propos du président turc, nouvelle réaction ce matin, cette fois de Jean-Yves Le Drian en déplacement à Bamako pour parler paix et sécurité au Mali. Le ministre des Affaires étrangères évoque une propagande haineuse et calomnieuse contre la France. La Turquie d'ailleurs continue ses manœuvres pour asseoir sa domination en Méditerranée orientale. Elle prolonge la mission d'un navire d'exploration gazière près de l'île de Rhodes, zone qu'elle se dispute avec la Grèce. Athènes juge l'activité de ce bateau non autorisée et illégale. Une réunion extraordinaire du gouvernement espagnol ce matin. Il doit décréter pour la deuxième fois cette année un état d'urgence sanitaire pour permettre d'instaurer un nouveau couvre-feu dans certaines régions. Une stratégie pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19 galopante en Europe. Ce matin, l'Italie annonce de nouvelles restrictions comme la fermeture des cinémas, des théâtres ou des piscines. Bars et restaurants doivent cesser de servir dès 18h. Au Chili, les bureaux de vote viennent d'ouvrir. 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour un scrutin historique. Ils doivent dire s'ils approuvent ou s'ils refusent l'idée de rédiger une nouvelle constitution, un scrutin obtenu sous la pression de la rue lors du mouvement social historique d'octobre 2019 contre les inégalités sociales. Le pays vit toujours sous la constitution héritée de la dictature du général Pinochet. Et si le texte a été modifié plusieurs fois depuis le retour à la démocratie en 1990, il protège encore aujourd'hui le modèle néolibéral imposé à l'époque. Reportage à Santiago de notre correspondante Justine Fontaine.
Hola.
Tirer un trait sur la constitution héritée de la dictature et pouvoir élire une assemblée constituante, Marta Valdés attend cela depuis plus de 30 ans. Plusieurs membres de sa famille ont été assassinés par le régime du général Pinochet et son fils a été blessé par la police lors du mouvement social d'octobre 2019. Elle espère que le référendum ce dimanche permettra de mettre fin au modèle néolibéral imposé sous la dictature.
Hoy día tenemos la posibilidad de cambiar este país.
Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer ce pays pour en finir avec les inégalités, garantir à tous les Chiliens les droits les plus essentiels, éducation, santé, des retraites dignes, le respect des droits de l'homme, pour écrire une constitution qui sera celle de tous les Chiliens.
La constitution actuelle a été écrite en 1980 et réduit le rôle de l'État dans l'économie au strict minimum. Elle a aussi mené à la privatisation de nombreux services publics et du système de retraite, aujourd'hui décrié par les Chiliens. Alfredo Joignon est professeur de sciences politiques à l'université Diego Portales.
C'est une constitution extrêmement idéologique. Les droits sociaux en matière d'éducation, de santé et de prévision, retraite, ce sont des droits qui sont garantis dans la mesure où les familles et les individus payent pour eux.
Le oui à une nouvelle constitution est donné largement gagnant dans les enquêtes d'opinion. Si ces estimations se confirment dans les urnes, une assemblée constituante sera élue en avril et le Chili pourrait s'orienter vers un modèle plus proche de la social-démocratie.
Un reportage à Santiago de notre correspondante au Chili, Justine Fontaine. La face cachée du globe, c'est avec vous Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour Sarah. Les Pays-Bas, ancienne puissance coloniale en Indonésie, appelée à l'époque les Indes orientales néerlandaises, indemniseront les enfants indonésiens exécutés pendant la guerre d'indépendance qui a commencé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et s'est terminée en décembre 1949. Après avoir fait valoir la prescription, puis donné raison en 2013 aux veuves qui avaient saisi la justice, la Haye a pris lundi la décision de dédommager toute personne pouvant prouver que son père a été victime d'une exécution sommaire pendant ce conflit. Gabrielle Maréchaux, vous êtes notre correspondante en Asie du Sud-Est. Sait-on combien de personnes sont concernées par cette mesure?
Eh bien, pas vraiment non, même si l'on ne s'attend pas à un nombre colossal, car ce dédommagement ne pourrait être versé qu'aux enfants d'Indonésiens fusillés qui réussiront à le prouver. Or, parmi les quelques 100 000 victimes indonésiennes de la guerre d'indépendance, selon les dernières estimations, les personnes tuées lors de pelotons d'exécution ne représentent qu'une petite partie et leurs enfants ne sont plus tout jeunes, plus de 70 ans après. Beaucoup sont sans doute morts, puisque l'espérance de vie moyenne indonésienne est de 71 ans aujourd'hui. S'il est donc jamais trop tard pour rendre mémoire, il l'est peut-être aujourd'hui pour rétribuer directement la deuxième génération de victimes.
Et cette annonce rappelle d'autres cas de dédommagement qui se sont posés dans le monde.
Eh bien oui, car la question de la réparation en suscite rapidement beaucoup d'autres. Qui dédommager? Comment? Avec quel montant? En 2013, la Grande-Bretagne avait par exemple choisi d'indemniser 5000 survivants kényans de la révolte des Mau Mau, qui fit 100 000 morts selon les dernières estimations, et plus encore de prisonniers parfois torturés, castrés ou violés. Avant cela, l'Italie avait promis en 2008 de verser à la Libye 3,4 milliards d'euros, étalés sur 25 ans en dédommagement de la colonisation passée, mais aussi avec la promesse d'efforts communs pour lutter contre l'immigration clandestine. Les Pays-Bas ont donc, eux, pris une autre voit aujourd'hui en annonçant une somme forfaitaire de 5000 euros versée aux descendants directs d'hommes exécutés. Et pour Bunga Meysan Siagan, avocate indonésienne spécialisée en victimologie, ce choix en dit beaucoup.
Si l'on se concentre sur les victimes, on peut estimer que la justice fait son travail en leur versant une aide qui leur revient directement. Mais si l'on veut penser de manière plus globale, on peut considérer que cette guerre n'a pas seulement affecté les victimes individuellement, mais la nation tout entière. Et cet aspect n'est pas reconnu.
Or, l'État indonésien a payé cher la décolonisation, au propre comme au figuré, car lors de la signature du traité de souveraineté en 1949, les Pays-Bas sont parvenus à léguer la dette de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à la jeune République indonésienne qui dut la rembourser jusqu'au début des années 2000.
Gabrielle Maréchaux, correspondante de Radio France en Asie du Sud-Est. Et plus près de nous en Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez a déclaré vendredi suspendre l'horloge de la réforme judiciaire. Ce projet en l'état était contesté par l'opposition et suivi d'un œil critique par Bruxelles. Les explications de Marie-Hélène Ballestero à Madrid.
C'est un pas dans la bonne direction. La Commission européenne n'a pas tardé à réagir à l'annonce de la suspension de la réforme judiciaire en Espagne. Une réforme qui semblait menacer l'indépendance des juges, d'où l'inquiétude affichée ces dernières semaines par Bruxelles. Mais pourquoi une telle inquiétude? En Espagne, le Conseil général du pouvoir judiciaire, surnommé le gouvernement des juges, est composé d'un président et de 20 membres élus tous les 5 ans par le Congrès des députés et le Sénat à la majorité des 3/5. Or, son renouvellement est bloqué depuis presque 2 ans, faute d'accord entre le gouvernement de coalition PSOE et Podemos et le Parti Populaire. Officiellement, le PP refuse de négocier le renouvellement du pouvoir judiciaire si Podemos fait partie de la négociation. Officieusement, la majorité des membres de l'actuel Conseil général du pouvoir judiciaire est proche du Parti Populaire. Face à ce blocage, le gouvernement de coalition de Pedro Sanchez a donc présenté un projet de loi pour modifier la manière d'élire les membres de cet organe. Et c'est là que le bât blesse, car cette réforme judiciaire prévoit qu'en cas d'échec de la nomination des juges à la majorité qualifiée des 3/5, ceux-ci pourront être nommés au second tour à la majorité absolue. Une décision qui a provoqué immédiatement une levée de boucliers de l'opposition, mais aussi aussi des associations judiciaires espagnoles et même européennes qui dénoncent une réforme qui menace l'indépendance des juges et rend le pouvoir judiciaire encore plus vulnérable à la politisation. Une inquiétude partagée par la Commission européenne qui a donc salué vendredi la décision du gouvernement Sanchez de suspendre cette réforme judiciaire si polémique.
À dimanche prochain.
Nabila Hamel, la face cachée du globe, c'est à retrouver sur franceculture.fr. Un temps pluvieux et un vent fort aujourd'hui, il fait gris, comptez cet après-midi 14 degrés à Cherbourg, Paris et Bordeaux, 17 à Strasbourg, 19 degrés à Nice. Ce journal a été préparé avec Moussa Léchili à la technique, Pierre Faucillon.